Cathy Bazinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, communicatrice, fondatrice de ce site e-santé communication. On vous parle, Cathy, aujourd'hui en lien avec un texte que vous avez publié sur l'agence Science Presse, que l'on peut retrouver aussi sur votre site e-communication. Les maladies rares et médias sociaux, la force des réseaux de patients et de proches. Bien sûr, ça interpellait Frédéric et Geneviève parce que ils sont en train de créer cette fondation, Arthur Bruno, avec la clinique, de rassembler des familles, des gens pour parler du X fragile, pour le démystifier, pour trouver des recherches. Et on a les médias sociaux de nos jours qui peuvent nous aider. Quels sont leurs rôles dans le cas de maladies de familles plutôt touchées par une maladie rare, Cathy?
Mais dans le cas des réseaux sociaux, une des premières choses qu'on peut identifier dans les avantages de les utiliser, c'est que c'est une façon de briser l'isolement et de tenir un soutien social. Hein. Comme le qualificatif rare le suggère, souvent c'est difficile de trouver d'autres patients ou d'autres proches qui souffrent de la même maladie. Donc, les réseaux sociaux vont abolir certaines frontières comme l'emplacement géographique ou même la mobilité. Donc, dans un premier temps, ça permet aux gens de briser cet isolement-là et aussi d'obtenir un soutien social. Donc, on peut échanger avec d'autres personnes qui comprennent enfin ce qu'on peut vivre, soit à titre de patient ou de proche. Et ça permet essentiellement de partager de l'information. C'est souvent ce qui est rapporté. Les gens, c'est un avantage très précieux pour eux. D'information à plusieurs niveaux, je dirais. On peut échanger sur des découvertes médicales, des recherches en cours. On peut partager aussi son vécu, ce qu'on appelle du savoir expérientiel, tout en demeurant prudent, évidemment, par rapport à l'information là, qui est échangée. Et on peut aussi partager de l'information parce qu'une maladie rare, ça peut toucher toutes les sphères de la vie. Donc, on peut partager de l'information pour mieux naviguer dans des systèmes complexes. Je ne parle pas juste du réseau de la santé ici, ça peut être le réseau de l'éducation quand on a des enfants qui ont des besoins particuliers. Ça peut être sur des questions administratives, par exemple, comment formuler une demande pour obtenir une vignette d'accompagnement. Mm-hmm. Donc, c'est à plusieurs égards qu'on peut échanger de l'information.
Cathy, je me disais aussi qu'il y a des familles, des parents qui s'en servent pour communiquer des informations sur leur enfant. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'appeler tout le monde puis de faire 25 appels lorsqu'on sort de chez le médecin. Et on peut s'en servir là, pour donner de l'information à tout le monde. Est-ce que ça peut être une bonne pratique?
En fait, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, quand ce sont des groupes, par exemple, qui sont secrets, qui sont pas nécessairement publics, et là, on a un contrôle sur le public qui peut avoir accès aux informations qu'on partage, c'est effectivement identifié par les proches et des patients comme un gain de temps et d'énergie. Oui. Donc, on peut informer l'ensemble de son réseau d'amis, parenté, collègues, etc., de l'état de santé ou de l'évolution de la condition de santé à un public qu'on a choisi. Donc, ça reste dans la sphère de l'intimité, même si c'est sur les réseaux sociaux.
Oui. Je me demandais, dans les désavantages, si à un moment donné, on ne perd pas un peu le contrôle, et je mets des guillemets, à savoir s'il faut jouer absolument un rôle de modérateur parfois ou s'il peut y avoir de la désinformation. Est-ce qu'il y a moyen d'éviter ça?
En fait, ça va varier beaucoup selon le type de groupe. Hein, la qualité d'un réseau, c'est souvent lié à la qualité aussi des membres qui la composent. Généralement, les gens vont beaucoup s'auto-réguler dans des groupes, sur Facebook, par exemple. Oui, c'est sûr qu'il y a des risques de désinformation. À ce moment-là, je pense qu'il faut apprendre à développer un sens critique de l'information. Puis souvent, on parle de la triangulation des sources. Ça veut dire que je peux voir une information à un endroit, mais je vérifie par d'autres sources. Ça peut être un professionnel de la santé, donc c'est pas nécessairement sur Internet, mais je vais valider avec d'autres sources que c'est pertinent puis que ça s'applique à ma condition. Oui. Donc ça peut être une façon de contrer un peu les effets de la désinformation.
Frédéric et Geneviève, est-ce que vous utilisez les médias sociaux pour parler du X-Fragile ou pour parler d'Arthur ou de votre clinique, de la fondation éventuellement?
Absolument.
Approchez-vous un petit peu, Frédéric.
Absolument, c'est une partie intégrante de notre intervention au niveau du X-Fragile. On a une page publique X-Fragile où on peut publier des nouvelles plus générales, mais on a aussi un groupe de support qui est, dans notre cas, qui est fermé pour permettre aux gens de le trouver plus facilement. On avait ce problème-là aussi. Au niveau de la médiation, je pense que je suis intervenu une fois depuis 5 ans.
OK.
On a un super groupe. Puis,
Ce sont des parents d'enfants qui ont le X fragile.
Parents ou ça peut être, mettons, un oncle ou une tante ou un frère, par exemple.
Ou des intervenants.
Ouais. Et c'est, ça roule, c'est le bonheur total pour l'instant.
C'est le bonheur total. Et ça, c'est intéressant, Frédéric, ce que vous dites. Cathy, on entend par là que ça peut aider véritablement des parents et des familles d'avoir ce genre de groupe-là. Bon, encore faut-il qu'il soit positif. Comment on peut le créer, ce réseau-là? C'est quoi les bonnes pratiques pour intéresser les gens, aller les chercher, faire connaître notre groupe?
Mais premièrement, si on veut se lancer dans ce type d'activité, donc être soi-même le gestionnaire de la communauté, il faut avoir conscience qu'on doit consacrer beaucoup de temps quand même à l'animation d'un réseau. Quand je parle de la qualité des membres tout à l'heure, ben le groupe, son dynamisme aussi va être à l'image du dynamisme du gestionnaire de réseau. Ouais. Donc ça, c'est important. Et puis je pense que il y a différentes façons de faire la promotion ensuite de son groupe selon le médium qui a été choisi. Puis on peut mettre des critères aussi de sélection selon ce qu'on recherche comme comme membre. Mm-hmm. Je sais par exemple que ça c'était très important là, pour le groupe Facebook dont je faisais mention dans l'article qui s'appelle Maladie rare orpheline soutien référence. Oui. La raison pour laquelle la gestionnaire a lancé ce groupe-là, c'est que elle fréquentait d'autres sites aux États-Unis ou en France. Puis elle avait vraiment un besoin de parler avec d'autres personnes qui vivaient au Québec parce que leur situation était plus similaire au niveau, bon, je parlais tout à l'heure de administratif ou de type de réseau de la santé. Donc, pour elle, ça a été un critère de sélection. Il fallait que les gens soient sur le territoire du Québec. Ouais. Et il faut savoir que ce groupe-là regroupe plusieurs maladies rares. Et ce qu'elle disait, elle, qui était très aidant pour les gens, c'est qu'ils ont souvent des troncs communs, entre guillemets, de symptômes qui font en sorte que même s'ils n'ont pas exactement la même maladie, ils peuvent déjà partager des connaissances ou des trucs qui sont liés à un quotidien qui est similaire. Mm-hmm. Donc, même si c'est pas la même maladie, on peut dire, ben, nous, on va accepter tous les gens qui ont une maladie rare, mais ça doit se limiter géographiquement au Québec, par exemple.
Geneviève?
Oui, en fait, puis ce groupe-là est aussi utile pour des choses aussi banales que comment faire la demande pour avoir une poussette adaptée à l'IRDPQ. C'est comment faire... En ce moment, ils font beaucoup de pression sur ce groupe-là pour avoir des chariots d'épicerie adaptés, les Carolyn's Cart.
Oui.
Ils ont fait des démarches extraordinaires. Stéphanie a réussi à en faire entrer là, dans beaucoup de Walmart, entre autres, ou puis elle est extrêmement dynamique. En fait, dès qu'on est accepté dans ce groupe-là, elle nous envoie des câlins virtuels, elle nous explique comment le groupe fonctionne, elle nous... C'est un groupe très dynamique.
Ça vous a aidé, donc, Geneviève?
On était déjà, en fait, le groupe Facebook X-Fragile était déjà assez actif à ce moment-là. Ça a comme été un ajout. Mm-hmm. Puis effectivement, les deux donnent des informations différentes, puis on peut partager l'information d'un groupe à l'autre là, pour aider les deux communautés.
Frédéric, on peut trouver comment votre groupe pour le X-Fragile?
Tout simplement en cherchant groupe X-Fragile.
Sur
Québec.
Facebook.
Oui, puis notre logo, il est orange.
Oui.
On ne peut pas le manquer. Et c'est ça, groupe X fragile, Québec. Oui.
Comment, Cathy, quand on démarre ce genre de groupe-là, qu'on a envie d'interpeller des familles, on peut évaluer que nos interventions sur les médias sociaux sont adéquates, sont efficientes?
Mais un peu comme je disais tout à l'heure, il faut déjà développer un sens critique quand on partage de l'information. On parle de plus en plus de curation de contenu. Donc la curation, c'est un mot qui vient de l'anglais là, qui signifie prendre soin. Donc c'est l'idée de soigner l'information qu'on va partager. Mmh. On va nous-mêmes déjà faire un tri, on va les valider. Et souvent, les gens ont le réflexe de partager de l'information sans avoir lu au préalable, nécessairement. Ouais. Donc, c'est vraiment de développer une vigilance en termes de qualité d'information qu'on va partager. Déjà, ça, je trouve que c'est un point super important. Et puis, En partageant des informations pertinentes, des recherches qui encore, on anime dans le fond la communauté, on permet aux gens de réagir et de partager à leur tour l'information qui est pertinente.
Oui. Et comme le disait tantôt Geneviève par rapport à cette maman-là, pour les Caroline, là, c'est qu'elle prend soin de son réseau, les câlins virtuels, les petits coucous. C'est une façon aussi d'entretenir et de s'occuper là, des gens qui nous suivent.
Oui, absolument. Et je vous dirais que ça devient contagieux, que d'autres aussi adoptent cette façon-là de communiquer. Donc, ça a un effet positif sur l'ensemble du groupe.
Oui. En terminant, Frédéric, peut-être, ça vous apporte quoi, ce réseau-là sur Facebook? Parce que, oui, vous transmettez de l'information, mais vous, personnellement, en tant que papa, est-ce que ça a aussi des retombées?
Absolument, dans le fond, parce que ça me permet de me rendre utile.
Ouais, voilà.
Et puis en même temps, c'est agréable. Donc, je rends l'utile à l'agréable. Donc, je suis bien content.
Voilà. Cathy Bazinet, on peut lire ce texte « Maladies rares et médias sociaux, la force des réseaux de patients et de proches » sur votre site e-santé-communication.com, aussi sur le site de l'agence Science Presse. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Cathy, vous êtes journaliste, communicatrice et fondatrice, éditrice de ce site e-santé-communication. Merci.
Merci infiniment.
Bye bye.
Au revoir.